Des vies françaises à présent. Cette semaine, rencontre avec Melvin McNair. C'est un ancien des Black Panthers, ancien pirate de l'air également. Il est devenu médiateur dans le quartier sensible de la Grâce de Dieu. C'est à Caen. Portrait sonore, signé Charlotte Perry.
C'est quand même un sacré voyage.
Melvin McNair, un Black Panther à la Grâce de Dieu.
Au début, quand j'ai tourné en avion, je vais finir à la Grâce de Dieu, quoi.
Épisode 1.
C'est un sacré parcours, on peut dire.
Bonjour. 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 Je vais avec un micro. Bonjour. Et bien, vous êtes la bonne personne, voilà. L'incontournable. Oui. On peut mettre comme ça, il y a de la place, il y a du chiffon. On va mettre un peu de lumière, voilà.
On est où ici, en fait?
Nous sommes à la Grâce de Dieu, quartier Caen Sud. Quartier politique de la ville prioritaire. Et donc, on a travaillé beaucoup avant, quand j'étais actif, on peut dire, maintenant, sur une retraite. On suit un peu les problématiques quotidiennes, réduire les inégalités, donc voilà.
Vous avez habité ici, dans ce quartier?
Ah oui, oui. Donc, j'ai habité 86 jusqu'à 2014. J'avais un bureau sur le complexe sportif, à la Grâce de Dieu, là. Donc, on peut dire que c'est un des meilleurs complexes de Caen. On est piscine, deux gymnases, terrain rugby, trois terrain foot, terrain basket, bien entendu, synthétique, et aussi terrain baseball. Ouais. Parce que nous avons créé une association en 1901, justement pour rendre le baseball et le sport plus accessibles aux jeunes de quartier. On essaye de rendre la vie un peu mieux. Oh, c'était un peu notre raison d'être d'en aller vers eux sur le cas d'escalier, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas ce qui existait pour eux, donc ils étaient un peu repliés sur eux-mêmes. Donc on a réussi d'aider pas mal. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chômage et beaucoup de difficultés quand même.
Vous, on peut entendre hein, quand même. Vous n'êtes pas né ici à Caen.
Je suis pas né à Caen, mais c'est vraiment des blagues. Je dis tiens, je suis de souche quand même. Donc après, je suis né aux États-Unis dans une ville qui s'appelle Greensboro en Caroline du Nord. Donc j'ai grandi dans la ségrégation raciale. Notre ville est connue parce que c'est là que ça a commencé. Le mouvement de sit-in avec Martin Luther King, avec il y avait quatre étudiants qui étaient, on peut dire, mes grands frères. Nous sommes allés à la même église, et donc eux étaient à l'université, et ils ont décidé, en février 1960, de déclencher le mouvement sit-in à Greensboro.
Vous avez grandi dans quel genre de quartier à Greensboro?
Quartier... on peut dire ségrégué, complètement noir, mais aussi, c'était pas un ghetto. On avait une très grande maison parce que mon grand-père était évêque et ma grand-mère était institutrice. Donc, ils avaient une grande maison et donc, ils avaient une famille nombreuse. Donc, on peut dire 14 gamins, donc la grande maison. On a vécu avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. L'éducation était quelque chose de très important. On cherche l'excellence, mais aussi c'était des difficultés parce que bon, avec la ségrégation raciale, on n'avait pas les mêmes moyens que les écoles blancs. Donc, mais quand même, nos moyens de sortir de cette oppression, de cette répression comme ça, c'était à travers l'éducation et le sport. Donc après, j'étais un peu le sportif de famille. J'étais champion à partir de 10 ans,
champion de
baseball. Ouais. Donc, ça m'a suivi jusqu'au niveau lycée. Lycée, on était champion d'État, où ça m'a permis d'avoir une bourse à l'université. Donc, ça fait partie des premières bourses au niveau baseball. Donc, j'avais gagné une bourse baseball et football américain.
C'est comme ça que vous êtes rentré à l'université grâce à une bourse pour le baseball et le football américain.
Oui. À Winston-Salem, par contre. Donc là que j'ai eu le plaisir de rencontrer ma femme, donc qui était nettement plus brillante et plus intelligente que moi. Donc après, voilà.
Elle s'appelait Jean, votre femme, elle est décédée il n'y a pas longtemps.
Oui, moi J'ai quitté l'université après 2 ans et demi, donc je suis engagé dans l'armée, parce que c'était en même temps qu'il y avait le mouvement de droits civiques, il y avait Martin Luther King qui était assassiné, donc il y avait plein de choses. Et donc on commençait à avoir un peu une conscience un peu politique, et donc après on commençait à entendre en résistance, en révolte contre un status quo, même le status quo noir qui voulait qu'on soit conforme. Donc, à un moment donné, il y avait ces clashs. Boom. C'est là que ça commençait de dire, OK, il y a la résistance, quoi.
I have a dream. One day, this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Après l'université, vous êtes parti.
Après l'université, je chantais dans l'armée. Et on m'a dit que j'étais un peu programmé pour être commando.
Vous êtes parti faire l'armée en Allemagne, à Berlin.
Oui. Et donc, Berlin, c'était aussi confronté plus en plus avec le racisme, plus en plus avec la problématique du racisme, avec les officiers qui ne respectaient pas les Noirs et les...
Vous avez vécu, vous, le racisme là-bas, en Allemagne, de la part de l'armée?
Ah oui, 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 donc beaucoup, donc toutes sortes de harcèlements, le travail qui était réservé pour les Noirs, qui n'était pas le même pour les Blancs, on ne pouvait pas aller dans les mêmes endroits culturels que les Blancs, donc c'était assez séparé, et les endroits où on pouvait, là, on confrontait les racistes qui disaient qu'on n'était pas le bienvenu. Donc, il y avait toujours des confrontations physiques. Et,
des bagarres, quoi.
Il y avait des bagarres. Et donc, comme j'étais toujours un sportif d'autre niveau, je me suis engagé sur l'équipe de basket dans l'armée. C'est là qu'aussi, on se rend compte qu'il y avait aussi des Ku Klux Klan, il y avait des croix brûlées, des choses comme ça. Moi, j'ai joué dans des matchs de basket où... ouvertement, le public qui dit sortez des nègres de train, abattez-les, des choses comme ça. Donc, il y avait toutes les insultes et, raciales.
Le public, c'était des Allemands ou des Américains?
C'était des Américains, blanches, des femmes, des soldats. Donc, après aussi, beaucoup ont commencé à se former aussi en groupe pour s'autodéfendre. Donc, après, on a commencé à être un peu ciblé. Et tout ce qui résistait le racisme était envoyé, on peut dire, sélectionné pour aller au Vietnam.
Donc vous avez été sélectionné pour partir au Vietnam.
Avec ma grande bouche et comme ça, donc j'ai été sélectionné. Mais là, c'est là que j'ai résisté. J'ai décidé d'aller dans la clandestinité. C'est au même temps que c'est dans l'armée que je me suis engagé dans le Black Panther. Mais dans l'armée, on portait pas le blouson cuir, ni le beret. Donc on portait des bracelets noirs. Et donc dans l'armée, c'est là que ma conscience politique s'est plus aiguisée, on peut dire.
The army does seem to be doing what it can to overcome racial discrimination.
Est-ce que votre fils est né aussi exactement à ce moment-là?
Some black militants say it's not doing enough.
En principe, il ne devait pas être sélectionné pour aller en Vietnam vu que j'avais un enfant, mais ils ont fiché. Donc j'ai décidé d'aller dans la clandestinité. On a mis notre lumière d'invisibilité. On est disparu.
Et la suite de cette rencontre avec Melvin McNair, ce sera donc la semaine prochaine à la même heure avec le récit cette fois du détournement du vol Delta Airlines 841. Détournement entre Détroit et Miami. C'était des vies françaises. Portrait sonore réalisé par Charlotte Perry.